sondages. Il représente près de 2 millions de voix potentielles parmi les 18-24 ans.
Et c'est la fin de ce journal midi 10.
Merci beaucoup RFI pour ce journal midi 10 à Bordeaux, c'est le plat de résistance jusqu'à 13h. On va parler de deux événements. Le carnaval du Grand Parc qui a lieu ce vendredi dans le quartier de Grand Parc, comme son nom l'indique. Et puis la mobilisation pour les réfugiés. Bienvenue au profit de SOS Méditerranée qui commence, elle, dès demain et se déroulera pendant 10 jours. À 13h, le guide du Bordeaux colonial s'intéressera lui aussi à deux événements. Le 30e anniversaire du déclenchement du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Ce sera le 7 avril. Et puis les journées du film d'anthropologie organisées par des étudiants en anthropologie les 15 et 16 avril prochains. On commence avec quelques infos. Bonjour Léa.
Bonjour Baptiste.
Alors hier mardi, les étudiantes et étudiants de l'université Bordeaux-Montaigne poursuivaient leur mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles.
Il y a l'été, plus de 400 personnes, selon Rue 89 Bordeaux, à se réunir en AG devant le parvis de l'université Bordeaux-Montaigne, avec de nombreuses prises de parole. Le blocus de la fac y a notamment été voté. Les revendications appelées à la formation des personnels au pôle santé de l'université, la prise en charge des parcours de santé spécifiques pour les victimes et la création d'une cellule de signalement indépendante de la présidence de la fac. Suite à l'AG, les étudiants sont partis en manifestation pour rejoindre l'université de Bordeaux à la Victoire. On se retrouve demain pour un reportage sur le sujet dans le plat de résistance et on vous invite à réécouter le reportage de Léa Perron du 22 février sur notre site.
Hier, toujours, les postiers et postières étaient en grève suite à un appel national intersyndical contre leurs conditions de travail et des salaires trop bas.
Hier, était une vingtaine devant le parvis de la Poste de Mériadec pour revendiquer une hausse des salaires qui compense l'inflation. Les agents et agentes dénoncent des conditions de travail déplorables via un système d'embauche par intérim ou par sous-traitance. Ils revendiquent l'arrêt immédiat des suppressions d'emplois et la fermeture des bureaux de poste, ainsi qu'une pérennisation des emplois à durée indéterminée. L'appel a été lancé au niveau national par les syndicats Sud-PTT, Force Ouvrière, la CGT et CFTC. Un délégué de Sud-PTT rappelle aussi dans le Figaro que la Poste a été condamnée en 2023 pour manquement à son devoir de vigilance sur les conditions de travail des travailleurs et travailleuses sans papier au sein de l'entreprise.
Direction le Tarn maintenant et la bataille contre l'A69. Après 47 jours de siège par les forces de l'ordre, les écureuils de la Crémarbre sont finalement redescendus ce week-end des arbres qu'ils protègent.
Oui, le procureur de Toulouse et l'Office français de la biodiversité ont confirmé que le bois de la Crémade, du côté de Saïx, est considéré à fort enjeu écologique. Et le préfet Michel Villebois a déclaré que les arbres ne seraient pas abattus avant septembre 2024. Les pelleteuses et les forces de l'ordre ont quitté le site depuis le 1er avril, malgré un référé pénal environnemental déposé le 10 février 2024. C'est une victoire pour le collectif La Voix est libre, le groupe national de surveillance des arbres et tous les militants et militantes. Nous vous invitons à lire l'article du Média Reporter qui estime à 2,76 millions le coût de la répression contre les opposants à l'autoroute A69.
Et puis enfin, on vous parlait hier des nouveaux débordements d'eau usée sur le bassin d'Arcachon. La juge des libertés de la détention de Bordeaux a rendu hier une ordonnance de mesure d'urgence sur ce sujet.
Oui, la justice donne un an au syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon pour mettre en place des déversoirs d'orage, un contrôle systématique des eaux par un laboratoire indépendant et pour cesser tout pompage sur le bassin de sécurité d'Audenge. À l'origine de cette décision, un référé environnemental déposé par l'association écologiste Cepanso contre le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon. La Cepanso qui rappelle dans le sud-ouest, je cite, « les défauts du réseau sont connus depuis de nombreuses années ». C'est la première fois qu'un référé environnemental est activé en Nouvelle-Aquitaine afin de contraindre un responsable de faire cesser une pollution.
Merci beaucoup Léa pour toutes ces informations. Et à midi 14 sur la Clézonde, on s'intéresse à notre premier sujet du jour, premier événement des jours à venir. C'est le carnaval du Grand Parc qui aura lieu ce vendredi 5 avril, toute la journée dans le quartier du Grand Parc. Et on en parle avec Pauline Amiot-Nava. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Tu es cofondatrice du café Le Petit Parc, donc qui est situé, qui jouxte, qui est dans le même bâtiment que la salle des fêtes du Grand Parc. Et tu es coordinatrice sur ce projet de carnaval du Grand Parc. Alors l'année dernière, tu étais déjà venu nous en parler. C'était la première année de relance de ce carnaval. Peut-être un petit bilan. Dis-nous un peu comment ça s'était passé l'année dernière. Cette expérience vous a plu, a fonctionné, a marché, et donc vous réitérez cette année.
Exactement. Oui, l'année dernière, ça a très bien fonctionné malgré des conditions météorologiques presque apocalyptiques. Il y avait beaucoup de vent notamment, et on a eu la pluie, mais on a pu maintenir quand même l'événement. Et donc, toutes les écoles ont pu défiler l'après-midi, le flash mob a pu avoir lieu, on a pu également maintenir le goûter. Et donc, ça a très, très bien fonctionné. Ça a été très fédérateur pour les écoles du quartier, pour les structures du quartier, pour les habitantes et les habitants. Et c'était vraiment un très, très grand moment de joie, vraiment très fort. Et donc, il a paru évident à tout le monde, très rapidement, même pendant la journée l'année dernière, qu'on allait réitérer pour une deuxième édition.
Il y a 7 écoles, c'est ça, sur l'ensemble du quartier ?
Alors, il y a 6 écoles sur l'ensemble du quartier, et nous, on a invité d'autres écoles qui sont dans le quartier Grand Parc Jardin Public Chartron, pour justement pouvoir créer un peu de mélange, et aussi parce que ces écoles qui jouxtent le quartier accueillent des enfants du Grand Parc.
D'accord. Et effectivement, c'est un moment important pour ces écoles, pour les enfants. Je me rends pas trop compte, mais il y a peu de moments comme ça fédérateurs où tout le monde se rassemble.
Oui, il y a peu de moments au Grand Parc, effectivement, de moments très festifs et très fédérateurs. Il y en a de plus en plus, hein, plein de structures, et notamment un collectif d'habitants super qui s'appelle Grand Parc en Mouvement, vraiment participe à la vie de quartier. Mais c'est vrai que ce carnaval, il a longtemps existé au Grand Parc. Toutes les personnes qui l'ont connu en parlent avec un souvenir très très ému, et il s'est arrêté à cause des plans Vigipirate qui se renforcent, tout le monde s'était un petit peu essoufflé, et c'est vrai que ces grands moments de joie sont très très importants, et surtout dans une ambiance qu'on a en ce moment qui est un peu anxiogène, un peu morose, c'est chouette de pouvoir se retrouver autour de quelque chose de fédérateur et de joyeux, surtout.
Oui, c'est ce que vous dites aussi dans le communiqué de presse. Après plusieurs années où les moments de célébration commune ont été rendus difficiles, l'objectif est de mettre un sourire sur tous les visages du quartier. Et peut-être ce qui manque aussi, c'est des lieux. Peut-être c'est le moment de parler un petit peu du café Le Petit Parc, d'avoir des lieux aussi comme ça qui rassemblent et qui permettent d'avoir cet esprit-là et cette joie-là.
Ouais, la volonté de faire des choses ensemble, c'est vrai qu'elle est partagée par les structures du quartier, mais chacune est prise, bien sûr, hein, dans les urgences du quotidien. L'association Le Petit Parc, elle a été créée il y a 4 ans. Donc j'en suis l'une des 2 cofondatrices avec mon associée et néanmoins amie Pauline Berlioz, une autre Pauline. Nous, on habite au Grand Parc et on a eu envie de pouvoir participer à la vie de quartier du Grand Parc en créant cette association. Et l'objectif de l'association, c'est vraiment de provoquer la rencontre et de faire des choses ensemble. Et donc très rapidement, en fait, dans la genèse de l'association Le Petit Parc, on a rassemblé autour de nous des habitantes et des habitants du quartier, et cette idée de remettre sur pied le carnaval est venue vraiment de 2 habitantes, notamment Nadia et Delphine, qui font partie du conseil collégial de l'association, et donc voilà, on a eu envie de créer un lieu pour pouvoir se retrouver et faire des choses ensemble. Ça a pris la forme de ce café-cantine, effectivement, qui est dans la salle des fêtes du Grand Parc. Donc on a toute la partie café-cantine qui est gérée par notre référent restauration Julien, qui gère ça d'une main de maître et qui cuisine très bien, j'en profite pour le dire. Dans ce lieu, on anime aussi des ateliers, des activités, soit portées par des bénévoles, soit portées par des partenaires, pour faire des choses ensemble. Et l'idée du carnaval, c'est évidemment d'offrir ce moment de joie au quartier, mais c'est aussi de préparer ce moment ensemble. Et donc, depuis le mois de septembre, on est une quinzaine de structures à s'être mises autour d'une table pour réfléchir à cette nouvelle édition. Et depuis le mois de janvier, au Petit Parc, on a des chantiers participatifs pour créer tous les décors. On a vraiment toute une dynamique autour de ça qui s'est créée. Et là, en ce moment, on fait des gâteaux pour vendredi. On a une centaine de gâteaux à faire cette semaine avec les écoles. Ouais.
On va revenir un peu sur toute cette préparation. Peut-être un dernier mot plus général. Il y a l'aspect festif dans le carnaval. Il y a un aspect aussi symbolique, parfois avec le déguisement, avec le travestissement, etc. Je renvoie là-dessus aux émissions qui ont été faites dans l'émission Histoire de voir, Histoire au pluriel, sur l'histoire de carnaval, je crois, du côté de Bayonne, du côté de Plazac en Dordogne. C'est présent aussi cet aspect-là dans le carnaval de Grand Parc, Pauline ?
Alors, l'aspect déguisement est très important. On a choisi le thème en collaboration avec les écoles. Le thème du carnaval de cette année, c'est la mer veilleuse et autres curiosités aquatiques, donc tout ce qui tourne autour de la mer et de l'eau. On a choisi ce thème-là parce que trois des écoles partenaires avaient déjà choisi ce thème pour leur projet d'école de l'année. Donc du coup, on voulait que ça entre vraiment dans leur programme. Et ce sont les écoles qui s'occupent des déguisements. Nous, le petit parc, on est allé animer des ateliers pour faire un petit peu de costume et donner au coup de main à certains instits qui avaient un peu plus de mal à se projeter. Mais en tout cas, pour les enfants, c'est très important, effectivement, cette idée de se déguiser. Et de ce qu'on a déjà pu voir, de ce qui a été fait, je pense que ça va donner vendredi.
Ok, donc on ne peut pas en dire trop pour réserver la surprise de vendredi, mais en gros, dans chaque école, donc les enfants ont fait des déguisements.
Ouais.
Et puis, il y a des décors aussi communs pour le défilé.
Exactement, on a fait des décors communs. On a travaillé cette année avec une scénographe du quartier qui s'appelle Clara Leroy, qui a réfléchi la scénographie avec un groupe d'ados du quartier de l'Académie UNS et qui anime les chantiers participatifs depuis le début de l'année avec des habitantes et des habitants pour construire un totem, pour construire des marionnettes, pour construire des méduses. Enfin bon, bref, il y en aura dans tous les sens grâce à Clara et à son merveilleux travail. Ouais.
Et alors ce thème, il fait écho quand même à des sujets d'actualité qui ne sont pas toujours hyper rigolos et fun, ouais. La préservation des ressources en eau, de pollution, on parlait du bassin d'Arcachon juste avant. Est-ce que tu sais un peu comment ce thème-là, il a été, comment les jeunes se le sont appropriés et voilà, quel écho ça fait chez eux ou dans les écoles, de la manière dont les enseignants aussi ont repris ce thème-là?
Alors j'ai pas le détail de comment les écoles l'ont traité. Nous, en tout cas au Petit Parc, on profite aussi du carnaval pour partager des messages qui nous tiennent à cœur. Par exemple, tous les décors sont faits avec du matériau de récupération et ça, vraiment, on en parle beaucoup aux élèves, de ne rien jeter et de transformer plutôt les déchets. Et la préservation en eau aussi, chaque classe qu'on reçoit, on leur en parle. On a en ce moment, sur la terrasse du Petit Parc, on accueille une tin box de l'Agence Créative avec une exposition dedans qui s'appelle La République des Océans et des Mers et qui est également autour de ce thème-là. Donc on en parle aussi, on se sert aussi de ce média-là pour sensibiliser les enfants à la préservation de notre biodiversité et de notre planète.
Mmh. Donc, dans ce carnaval, il y a l'association Le Petit Parc, il y a les écoles, et puis il y a une quinzaine de structures socioculturelles du quartier. C'est quoi tous ces partenaires, tous ces gens qui participent aussi, qui ont peut-être participé à la construction, la réflexion autour du carnaval?
Alors, tous ces partenaires, c'est globalement presque toutes les structures du quartier qui ont participé et à la construction, effectivement, et à la fabrication du carnaval. Donc, on a le centre social, le centre d'animation, l'Académie UNS, Local Attitude, pour ne citer que. Alors, ça, c'est toujours l'exercice, on risque d'en oublier. On a le collectif Grand Parc en Mouvement aussi. Et ensuite, on a aussi des structures en dehors du quartier qui nous suivent, comme le collectif Bordeaux Nord, par exemple, sur tout le pilotage de l'événement. On a les EHPAD du quartier également, pardon, qui cette semaine font des gâteaux avec les écoles. On a aussi les crèches du quartier qui ont participé à toute la réflexion et l'organisation. Donc on est vraiment très nombreux autour de la table, ouais, quand on fait les réunions de pilotage.
Et alors, donc, tous ces acteurs, actrices participent à des moments bien particuliers dans le programme. Donc, dans le programme de ce vendredi, ça commence le matin à 10h avec les tout-petits, c'est ça?
C'est ça. Le matin à 10h, ce sont les bébés qui ouvrent le bal avec les crèches, la crèche familiale et les assistantes maternelles qui font un défilé au départ du boulodrome. Ensuite, l'après-midi, alors on a un flou en ce moment sur la participation de certaines écoles au défilé de l'après-midi suite au renforcement du plan Vigipirate. En tout cas, pour sûr, dès la sortie de l'école, à partir de 16h45, sur ce qu'on appelle la Prairie Nord au Grand Parc, qui est du côté de la rue Pierre-Trébeau, on distribuera le fameux goûter qu'on est en train de faire cette semaine. Et il y aura de la batucada, de la musique, un spectacle de clôture, des surprises, pour vraiment finir cette journée avec un très grand moment de fête.
Très bien, donc le rendez-vous en tout cas qu'on peut donner à tous et toutes, c'est à partir de 16h30, 17h du côté de la Prairie Nord.
C'est ça, exactement.
Très bien, on a tout dit, qu'est-ce qu'on...
Alors, je voulais juste en profiter pour remercier donc, toutes les structures organisatrices sans qui ce carnaval n'aurait pas été possible, et également nos financeurs, parce que c'est un très grand projet. Donc la mairie de Bordeaux, la mairie de quartier, la cité éducative, le collectif Bordeaux Nord, les bailleurs du quartier également, et le groupe Bordeaux Nord Aquitaine qui nous ont soutenus.
Très bien, alors j'en profite aussi
Et la salle des fêtes du Grand Parc quand même, que je ne les oublie pas.
L'acteur majeur du quartier.
Exactement.
Ce vendredi, ce sera aussi le carnaval du côté de Bacalan, oui. Avec un départ à 17h15 pour le défilé, 17h15 au parc Ipoustegui. Voilà, et pareil, il y aura, je crois, des festivités ensuite dans la soirée. Tant que tu es là, Pauline, un petit mot sur le petit café. Tu en as déjà parlé, mais peut-être sur les ouvertures, les ateliers à venir la semaine prochaine.
Oui, alors au petit parc, donc on sera exceptionnellement fermé vendredi hein, pour cause de carnaval, mais sinon le petit parc reste ouvert aux horaires habituels, donc du mardi au jeudi et un samedi par mois. On continue nos ateliers. Là, dans les semaines à venir, on a une série d'ateliers goûter qui va commencer mercredi prochain, puis samedi, puis le mercredi d'après. C'est une formule d'atelier qui est portée par des bénévoles qui viennent proposer une recette de gâteau qu'on fait ensemble. Et pendant que le gâteau cuit, ces bénévoles proposent un moment de loisir créatif. Et ensuite, on partage le goûter ensemble. Donc par exemple, mercredi prochain, à 15h, vous pouvez venir pour découvrir la recette de carrot cake de Laura. Et on fera un petit peu de poterie aussi. Voilà, c'est ouvert aux enfants, aux adultes. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page Instagram du Petit Parc.
Super, merci beaucoup Pauline Amiot-Nava. Je rappelle donc que tu es cofondatrice du café Le Petit Parc et coordinatrice sur ce carnaval du Grand Parc. Rendez-vous vendredi dans les rues et les places du Grand Parc pour le carnaval.
Merci beaucoup.
Ok, on se temita de la banda Cortatu. Lo gracioso es que hemos hecho esto así un poco para este día y ya hasta Fermín Muguruza le ha dado me gusta, ¿no? A que estamos tocando su tema. Así que, bueno, es que ricasco, claro que sí. Esto dice así, vaya.
San César Retán Sirva y Custe con Agudí Falta de Dracos Te cuento de Lera Lear Sarri, 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 sarri Sarri, 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 escatú Sarri, 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 viva tú Y ratico a Hansir en el Si se sucedean paella Han, gozutela Pindietas arriba, remuturrean, salsan sundela, puntura tu gabeac. Sarri, 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 escapú. Sarri, 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 viva tú.
Le salsa punk orchestra sur la Calédon avec ce titre Sari Sari. Et à 12h31 dans le plat de résistance, en attendant notre invité pour parler de bienvenue, on va revenir sur les mobilisations pour la Palestine et pour Gaza qui avaient lieu samedi dernier à Bordeaux. C'est Graziella qui était pour la clé des ondes. Elle a interrogé deux militantes, Linda et Myrna, qui ont réalisé une action au miroir d'eau en soutien à la situation à Gaza et à la population de Gaza. On les écoute tout de suite.
Donc on est là sur la place de la Bourse aujourd'hui, c'est le samedi, samedi de Pâques hein, en France. Et vous avez organisé un visuel sur la place de la Bourse pour, je suppose, pour mettre en évidence les massacres, notamment des enfants à Gaza.
Oui, tout à fait. Écoutez, on a profité de cette belle journée de samedi très ensoleillée pour visibiliser un petit peu le massacre qu'il y a actuellement à Gaza, notamment et particulièrement des enfants. On atteint aujourd'hui 14 000, 15 000 morts d'enfants en 4 mois. Donc c'est un chiffre vertigineux. Ça rassemble, je pense, le nombre d'enfants morts en 4 ans dans le monde. Donc c'est en si peu de temps, on arrive à une situation effrayante. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui se passe à Gaza et on demande à ce qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat de manière à sauvegarder les gens qui restent en vie actuellement et essentiellement les enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 10 enfants par jour qui sont amputés et sans anesthésie. Donc il y a la famine, il y a la situation... hygiénique et totalement aberrante.
On a l'impression que malgré les réunions de l'ONU, même l'abstention des États-Unis lors de la dernière réunion, on a l'impression que Israël a tout pouvoir.
Écoutez, je ne sais pas s'ils ont tout pouvoir, mais en tout cas, tous les États sont impuissants aujourd'hui. Personne n'a la capacité de dire stop à Netanyahou. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, je ne sais pas. Aujourd'hui, 15 000 enfants de décédés, de morts, sans compter les enfants qui sont sous les décombres. Donc je ne sais plus. Il n'y a plus de mots pour qualifier cette situation. Et il faut que ça cesse à un moment donné. On ne peut plus supporter ça, c'est inhumain.
Alors non seulement c'est inhumain, mais en plus, le blocus... fait en sorte que les gens, et notamment les enfants, souffrent de malnutrition.
Écoutez, oui, la famine est une arme de guerre et elle est catastrophique. Là, c'est l'arme de guerre la plus puissante, je crois. Je pense qu'il y a l'équivalent de 3 tonnes de bombes nucléaires qui sont tombées sur la bande de Gaza à l'heure actuelle. Donc plus cette arme de guerre qui est la famine, la maladie, on ne sait plus comment qualifier cette situation qui est... on ne peut plus la regarder en tout cas. On ne peut plus la voir et on ne peut plus la regarder. Et il faut absolument visibiliser ça et dire à nos représentants politiques qu'il faut qu'ils fassent quelque chose.
Est-ce que vous appartenez à une association ?
Absolument pas. Moi, je suis citoyenne française, je suis bordelaise et je me sentais l'obligation de venir faire quelque chose. Et du coup, il y a 2 mois, on a collecté avec Myrna 400 paires de chaussures. Et puis là, on a collecté des peluches avec des photos et des éléments d'information pour sensibiliser les gens.
C'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Et vous aussi, vous êtes bénévole, vous n'êtes pas particulièrement dans une association. C'est la situation qui vous a révolté.
Oui, tout à fait, la situation. Ça fait plusieurs mois qu'on est révoltés, qu'on a le ventre noué avec toutes ces images d'horreur qu'on voit sur nos téléphones. Et se dire qu'en 2024, on peut assister à un génocide, c'est quand même la Cour internationale de justice qui parle d'un risque de génocide. La rapporteuse de l'ONU dit qu'il y a pour 50 années d'instruction à la Cour internationale de justice pour étudier tous les crimes de guerre actuels d'Israël. Donc là, on est dans une situation qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas comment on peut arriver à cette situation en 2024. Et il faut vraiment que ça s'arrête et que nos représentants fassent quelque chose à ce niveau.
Voilà, c'était Linda et Myrna, interrogées par Graziella samedi dernier devant la place de la Bourse à Bordeaux. Midi 36 sur la clé des ondes, on en vient à notre deuxième gros sujet du jour, deuxième mobilisation importante, c'est l'initiative citoyenne et associative Bienvenue, mobilisation pour les réfugiés et au profit de SOS Méditerranée, qui a lieu chaque année à peu près à cette période-là, qui commence donc demain, jeudi 4 avril, et pour une dizaine de jours jusqu'au 14 avril à Bordeaux. On en parle avec Éric Chevance. Bonjour Éric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous par téléphone. Comment on te présente, Éric ? C'est quoi ton rôle, ta casquette à Bienvenue ?
Je suis membre fondateur de cette association qui a commencé ses activités en 2018 et je fais partie du groupe d'organisation, évidemment, de façon bénévole, comme l'ensemble des personnes qui interviennent sur Bienvenue. Et je suis plus particulièrement chargé, entre autres choses, mais plus particulièrement des questions administratives et financières de cette initiative.
C'est quoi ? C'est la 6e ou 7e édition de Bienvenue à Bordeaux ?
Depuis 2018, donc 2020. Alors, on a interrompu pendant le Covid par obligation, mais on n'a pas interrompu nos activités. On a fait des distributions alimentaires de façon très importante dans les lieux de vie, dans les squats pour les personnes réfugiées, migrantes ou pas seulement, les personnes qui se trouvaient sans logis. On a fait vraiment une grosse action autour de cette chose-là au moment du Covid. Et puis, on a repris nos activités. Et puis, pour réfléchir un peu et reposer un peu les modes de fonctionnement de notre association, on n'a pas réalisé l'édition de l'an passé. Donc, on a fait 5 en tout. Voilà. Et là, on repart en grande forme.
Super. Alors, je le disais, il y a un premier objectif de cette mobilisation, c'est de récolter de l'argent pour SOS Méditerranée, qui est, on le rappelle, un réseau européen de sauvetage en mer. Il y a à peu près 20 000 euros qui sont récoltés chaque année, c'est ça, localement ?
Oui, c'est variable selon la durée de notre événement. Et puis parfois, on a des événements hors période du mois d'avril, alors que traditionnellement, c'est au mois d'avril. Mais effectivement, voilà, ce sont des collectes qui sont importantes et relativement importantes, puisque 20 000 euros, c'est à peu près, ça c'est variable selon les moments et les années, mais c'est à peu près ce que coûte une journée de navigation du navire de sauvetage Ocean Viking par SOS Méditerranée. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'énormément d'autres financements, mais chacun à son endroit, on essaye de collecter des fonds et de le reverser. C'est pourquoi, d'ailleurs, on essaie d'avoir un minimum de dépenses. L'ensemble de l'organisation, l'ensemble des artistes, l'ensemble des lieux nous sont mis à disposition gratuitement. Les artistes sont bénévoles, nous aussi, de façon à ce que chaque euro mis par des spectateurs, des visiteurs, des gens qui participent à nos événements, eh bien, puisse être reversé à SOS Méditerranée une fois retiré quelques frais d'organisation que sont les droits d'auteur, quelques frais de transport et de communication.
Alors, c'est vrai que médiatiquement, ça fait partie des sujets dont on entend plus ou moins parler selon les périodes. Là, ces temps-ci, c'était un petit peu, même beaucoup moins dans les médias, mais c'est toujours des réalités qui sont extrêmement fortes. En 2023, il y a eu plus de 3000 décès de personnes migrantes en Méditerranée. C'est l'année la plus meurtrière depuis 2017. Et puis, la situation pour les bateaux de secours, elle est toujours très, très compliquée. Elle est rendue compliqué notamment par les États, par l'Italie qui limite le nombre de sauvetages par bateau, par la question des ports dans lesquels les bateaux peuvent ensuite aller déposer à terre les rescapés. Est-ce que voilà, d'ici, Éric, tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe pour SOS Méditerranée et voilà la difficulté, la dureté de cette action de sauvetage qu'ils continuent néanmoins de réaliser en Méditerranée?
Oui, c'est très difficile. C'est déjà très difficile en soi parce qu'il faut identifier les bateaux, il faut essayer de sauver les personnes et qui parfois sont dans des états vraiment terribles de malnutrition, d'être blessés, d'avoir connu déjà avant le sauvetage des personnes qui sont mortes en mer, brûlées par les carburants qui sont au fond des bateaux de sauvetage. Enfin, c'est déjà un traumatisme extrêmement extrêmement grave, y compris pour les personnes qui arrivent à toucher les côtes européennes, et évidemment celles qui sont en détresse, qui sont en besoin d'être sauvées, c'est encore terrible. Parfois les conditions de mer sont difficiles. Et puis voilà. Alors SOS Méditerranée vraiment fait le maximum pour que ces personnes soient convoyés ensuite jusqu'en Italie, c'est-à-dire au port le plus proche, dans les meilleures conditions, avec des équipes médicales, avec bien sûr des marins, avec des personnes qui sont là vraiment pour prendre soin. Et c'est quelque chose de très important des personnes naufragées. Mais hélas, l'Europe en général, et notamment les États bordant la Méditerranée, les États européens bordant la Méditerranée, font tout leur possible pour éviter ces arrivées. On sait que c'est quelque chose qui est parfaitement inutile, puisque quoi qu'il arrive et quelles que soient les... et on entend ça dans les discours politiques aujourd'hui, et notamment en France, de fermer les frontières, de renvoyer les personnes chez elles, de tout ça, quelles que soient les politiques anti-migratoires qui seront mises en place, on sait que les gens partiront toujours. Ils sont chassés par la misère, ils sont chassés par la guerre, ils sont chassés par la corruption, par les vengeances, ils sont chassés par de multiples choses, et que s'ils prennent le risque, en connaissance de cause, de traverser des états très dangereux comme la Libye, de traverser de façon très dangereuse la Méditerranée, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de partir. Donc ils arriveront toujours, et ces politiques ne font qu'une chose, c'est de rendre plus dangereux les trajets migratoires. Et que ces trajets passent par la Méditerranée, qui passent par l'Atlantique pour arriver aux Canaries, par exemple, et même celles qui arrivent en Espagne et qui veulent traverser la France et qui vont aller jusqu'à mourir dans la Bidasoa en arrivant en France, au Pays Basque, c'est toujours de plus en plus dangereux. Et je ne parle pas évidemment de ceux qui sont arrivés et qui veulent passer en Angleterre, où chaque semaine, chaque jour, on a effectivement des informations comme quoi il y a eu un naufrage, il y a eu des morts, il y a eu, etc., des femmes, des hommes, des enfants. Donc effectivement, c'est très difficile pour SOS Méditerranée, mais qui fait ce travail avec énormément de courage et qui continue. Et il est nécessaire qu'ils se sentent soutenus d'abord financièrement. C'est pourquoi nous, au départ, nous avons lancé notre initiative. Notre initiative n'est pas uniquement pour collecter des fonds, mais c'est avant tout pour collecter des fonds pour SOS Méditerranée. Et puis aussi, de les soutenir, moralement, c'est-à-dire de dire, nous sommes à votre côté, nous ne sommes pas sur la mer, nous sommes à Bordeaux, nous ne pouvons pas tous embarquer sur le bateau, mais nous sommes à vos côtés, nous vous accompagnons et nous agissons. Et puis le deuxième objet de notre association, c'est de sensibiliser les personnes, la population, pour nous en ce qui concerne la métropole bordelaise, à la situation de ces personnes migrantes, et de revendiquer à l'échelle nationale et à l'échelle européenne une véritable politique d'hospitalité, qui est, je le crains et je le regrette, l'inverse de ce qui est en train de se produire à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Mmh.
Et oui, effectivement, j'allais dire que c'est aussi ça qui est important localement, de montrer face aux politiques xénophobes, face souvent au racisme de l'État, et bien que des collectifs solidaires sont encore là, continuent à se battre, et que cet autre comportement, cet autre rapport à l'humain est possible et souhaitable, et malgré ce contexte nauséabond, et bien il continue. Peut-être un mot sur comment vous, à Bienvenue, aussi dans l'ensemble des collectifs qui se battent pour offrir un accueil digne aux réfugiés, dont il est d'ailleurs notamment souvent question dans l'émission Le Guide du Bordeaux Colonial qui va nous suivre là d'ici un petit quart d'heure. Quel est le moral et comment on continue malgré tout ça, malgré cette politique qui ne va pas dans le bon sens, eh bien, à proposer cet autre accueil, Eric ?
Comment garder le moral ? Évidemment, parfois on s'interroge, mais en gros, principalement, c'est en étant sur le terrain. C'est-à-dire, c'est en rencontrant les personnes, en voyant les gens, les personnes, quelle que soit leur provenance, leur culture, leur religion, la région d'où ils viennent, et en étant à leur côté. Et finalement, c'est eux qui nous donnent la force de continuer, d'une part, parce que nous savons que c'est nécessaire, et d'autre part, ils sont eux-mêmes d'une telle force d'être arrivés jusqu'ici et de supporter les conditions indignes par lesquelles ils sont accueillis, en tout cas pour une grande part d'entre elles. Eh bien, on se dit qu'on ne peut pas rester indifférent. Alors, effectivement, l'ensemble des associations, des collectifs qui sont regroupés dans différentes collectifs d'associations, je dirais, on peut penser aux États généraux des migrations, par exemple, ici, mais aussi le collectif Anticras, c'est-à-dire le collectif qui se bat contre les centres de rétention administrative, qui sont de véritables prisons pour des personnes qui ne sont absolument pas des délinquants. Eh bien, se regroupent et chacun travailler à son endroit. Quand on est un médecin du monde, eh bien, on travaille sur la question de la santé. Quand on est au réseau d'éducation sans frontières, on travaille sur la scolarisation et l'éducation des enfants. Quand on est au collectif pour l'égalité des droits, on travaille sur la question de l'accès aux droits, etc., etc. Nous, on travaille beaucoup sur la médiatisation de ces situations, et il se trouve que notre objet, qui est d'organiser des événements artistiques et culturels, et nous rend beaucoup plus visibles que d'autres associations. Ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs ou plus nécessaires, mais plus visibles, puisqu'effectivement, nous organisons des manifestations qui sont publiques et nous en profitons pour prendre la parole et pour dénoncer ce qui nous semble inacceptable.
Alors justement, on va revenir un petit peu à ce qui va se passer, ce que vous organisez sur Bordeaux pendant ces 10 jours. Ça commence demain, jeudi, avec une inauguration en forme de déambulation festive, c'est ça, au départ de la Victoire, demain à 18h?
Oui, oui, ça c'est assez traditionnel. Tous les ans, on souhaite manifester dans l'espace public le début de notre manifestation, et de façon festive et de façon joyeuse, parce qu'il ne s'agit pas non plus de s'apitoyer et de etc. Il s'agit aussi de montrer que ces luttes, elles peuvent être comme les luttes qu'on a pu connaître au moment, des manifestations contre la réforme des retraites ou l'assurance chômage. Elles sont joyeuses et il faut qu'on puisse s'engager joyeusement. Et donc, effectivement, même si certains spectacles qui sont présentés sont des spectacles qui sont graves, mais d'autres sont plus légers, eh bien, cette déambulation va être joyeuse et se terminera à un endroit qui restera à découvrir sur le moment, avec de quoi se nourrir, de quoi boire un verre, de quoi continuer à faire la fête.
C'est quoi le mystère sur ce lieu d'arriver là? C'est un lieu nouveau, un lieu... qu'est-ce qu'on peut en dire?
Ce sera dans l'espace public, mais je ne dis pas plus.
Très bien, il faut y aller pour savoir. Donc ensuite, ça se poursuit hein, pendant le week-end et puis toute la semaine prochaine. Je ne sais pas si on va tout faire, s'il y a des choses sur lesquelles tu veux... des choses plus importantes que d'autres dont tu as envie de parler davantage, Eric, dans toute cette programmation. Il y a un peu de tout, hein. Il y a à la fois du théâtre, des concerts, des discussions, des tables rondes.
Oui, voilà. Alors, c'est difficile de sortir un événement parmi d'autres. Il y a des événements qui se déroulent dans des petits lieux et qui vont concerner évidemment un public beaucoup plus modeste quantitativement. Et puis il y a des événements qui vont se dérouler dans des grands lieux. Un des moments phares quand même de cette mobilisation, c'est le vendredi 12 avril au cirque, à l'école du cirque. Bienvenue au cirque de Bordeaux.
Donc c'est situé aux côtés de la base sous-marine et des bassins
à côté de la base sous-marine avec des performances circassiennes, avec le spectacle de Radissard dansé avec des DJ, et puis la présence de Perrine Fifadji, qui est notre ambassadrice cette année, et un village associatif dans lequel il y aura entre 15 et 20 associations qui travaillent sur la question sociale, sur la question humanitaire, sur la question des droits, sur la question bien sûr des réfugiés, qui seront présentes et qui pourront présenter leur action. Donc ça, c'est un des éléments très importants. C'est une entrée qui est vraiment très peu chère, à 5 euros, 2 euros pour les enfants, pour une soirée complète. Les tarifs sont vraiment très peu chers, c'est 5 euros et la plupart du temps aussi tarifs libres. Donc on peut citer celui-là, mais on peut aussi citer des partenariats importants avec le théâtre Le Levain de Bègles, qui accueille 2 soirées à la fin, le jeudi 11 et le vendredi 12 à la chapelle de Mussonville, qui s'appelle aujourd'hui Espace Jean Vautrin. On peut citer le spectacle La Fortune de Jeanne au Garage Moderne dans ses nouveaux locaux pendant les travaux par la compagnie L'Aurore. Enfin, il y en a énormément. L'Odyssée des Foireux de la compagnie Dies Irae au Douvres. Voilà, je ne vais pas citer parce que le programme est disponible en ligne et c'est quelque chose, comment dire, il y a trop de choses pour les citer comme ça, test d'inventaire, etc. Juste pour terminer, le 13 avril, à l'hôtel Raguenaud, dans le cadre du mois de la photo, conférence sur la photographie, concert d'Emmanuel III, ça va être aussi un moment important.
Et voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment il y en a pour tous les goûts, il y a à la fois des moments festifs musicaux, il y a du théâtre, il y a des choses plus graves, je pense notamment aux lectures de À la ligne, feuillet d'usine, qui est donc le témoignage d'un ouvrier dans des usines de poissons, notamment en Bretagne, des conditions de travail très, très dures, une table ronde, je crois avoir vu une table ronde quelque part, mais je ne la retrouve plus dans l'ensemble du programme. Enfin, il y a plein de choses très différentes.
C'est pour la photographie à l'hôtel Raguenaud là, dans le cadre du mois de la photo le samedi donc 13, avec un photographe qui a fait une série de photos justement avec SOS Méditerranée, sur la Méditerranée notamment. Donc ouais, voilà, beaucoup de choses. L'idée, c'est à la fois de créer un événement qui soit visible sur Bordeaux et que cet événement festif, grave aussi parfois, soit aussi un événement revendicatif. Nous revendiquons une véritable politique d'hospitalité à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Donc il y a cette dimension qui nous semble tout à fait importante, mais ça passe effectivement par ce que nous savons faire. Nous sommes principalement un groupe d'acteurs artistiques et culturels, et ce qu'on sait faire, c'est organiser des spectacles, des expos, des concerts. C'est donc ce qu'on fait au service de cette cause qui nous semble absolument essentielle. Avec des grands mots, pour l'avenir du monde quand même, puisqu'on ne peut pas ignorer ce qui se passe dans les pays du Sud, on ne peut pas ignorer ce qui se passe dans les pays à l'Est de l'Europe, on ne peut pas ignorer ça et rester enfermé dans notre bien-être et dans notre confort, parce que si on continue à ces politiques-là, nécessairement, il se passera des choses très graves.
Et puis c'est aussi une occasion, cette série de rendez-vous, cette programmation, de rencontrer, comme tu le disais, les acteurs, les collectifs qui se mobilisent déjà, et pourquoi pas de les rejoindre, même si on sait que c'est pas une solution à long terme et que voilà, il faut cette politique, cette véritable politique d'accueil. En attendant, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens et de s'investir individuellement sur ces différents aspects-là, j'imagine.
Oui, tout à fait. Alors, notamment parce que la plupart d'entre eux seront présents sur la soirée du 12 à l'école du cirque de Bordeaux, à la base sous-marine. Là, ils seront là avec des tables, avec des stands, avec etc. Et c'est possible de discuter. Il y aura bien sûr aussi SOS Méditerranée. N'oublions pas que l'élément déclencheur de notre initiative, c'est le fait que SOS Méditerranée a besoin d'être soutenu, d'être accompagné et d'être financé. Mais sinon, une majorité des autres acteurs que j'ai cités tout à l'heure, RESF ou le collectif Anticra ou Médecins du Monde, seront présents sur cet événement. Je voudrais signaler une chose aussi qui me semble importante, si j'ai encore quelques instants. C'est que quand nous avons commencé notre action en 2018, on a commencé à en réfléchir à 2017, SOS Méditerranée avait très très peu de soutien public. Vraiment, c'était financé à 98 ou 99% par uniquement des dons citoyens, c'est pour ça qu'on s'est mobilisé. Mais aujourd'hui, même si c'est encore très majoritairement financé par des dons privés, des dons citoyens, et donc il faut bien sûr continuer, eh bien, de plus en plus, certaines collectivités se sont mises à financer, voilà. Et localement, et je pense, en ayant un petit peu de fierté peut-être, que nous n'y sommes pas pour rien, que la ville de Bordeaux, la ville de Floirac, la ville de Bègles, le département de Gironde financent aujourd'hui, attribuent une subvention annuellement à SOS Méditerranée. Et je pense que le fait que nous ayons lancé des initiatives, nous ayons parlé sur l'ensemble du territoire de la métropole de cette question-là, a été un des éléments qui a incité ces collectivités à s'y engager. Deuxième élément important qui est lié à ça, c'est que depuis un peu plus d'un an maintenant, SOS Méditerranée a un bureau permanent à Bordeaux. Il est situé dans les locaux de Darwin. Et c'est important que maintenant SOS Méditerranée soit complètement présent sur le territoire du Bordeaux, de la métropole de la Gironde. Et j'oublie pas aussi un autre partenaire important de SOS Méditerranée qui n'est pas avec nous cette année, mais qui a été avec nous les autres années, c'est des questions factuelles, hein, c'est le Rocher de Palmer qui régulièrement organise des concerts de soutien à SOS Méditerranée et qui apporte évidemment beaucoup, beaucoup d'aide et aussi de moyens à SOS Méditerranée. Donc finalement, j'ai la faiblesse de croire que notre initiative initiale, si j'ose dire, y est pour quelque chose, eh bien, il existe aujourd'hui une véritable dynamique à Bordeaux autour de SOS Méditerranée et je ne peux que m'en féliciter et ça nous donne un peu d'espoir pour la suite.
Très bien, alors j'en profite pour ajouter un autre rendez-vous, ce sera le 12 avril, c'est une assemblée Anticra qui aura lieu à l'Athénée Libertaire, donc avec le collectif Anticra qui continue à se battre contre l'implantation de ce centre de rétention administrative du côté de Mérignac. Une assemblée donc le 12 avril à 19h à l'Athénée Libertaire, et j'ai cru voir aussi, Eric, que Bienvenue se poursuivrait début mai avec une autre soirée au tout début du mois de mai, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, très souvent, oui, ça me permet de préciser que beaucoup d'artistes ou d'acteurs culturels ont des initiatives et veulent nous soutenir, mais ne sont pas forcément disponibles dans la période que nous proposons, etc. Et donc, ça arrive effectivement que ça arrive plus tard. Et donc, effectivement, le 3 mai, au Jean Eustache, au cinéma Jean Eustache à Pessac, il y a un film qui s'appelle « Je ne sais pas où vous serez demain », filmé au travail, Grand Prix du Festival Film et le Travail, c'est un documentaire aussi qui est lié aux questions qui nous préoccupent. Et donc, effectivement, nous avons régulièrement, dans un programme qu'on appelle un peu basiquement, mais c'est clairement Bienvenue, ça continue. C'est-à-dire qu'on a notre édition de Bienvenue au mois d'avril chaque année, mais ponctuellement à d'autres périodes de l'année, selon les disponibilités des artistes ou des structures qui souhaitent collaborer à notre initiative, eh bien, nous avons d'autres événements. Donc voilà, celui-ci, par exemple, au cinéma Jean Eustache, le 3 mai.
Très bien, ben merci beaucoup Eric Chevance. Donc de Bienvenue, on rappelle que ça commence demain et ça se déroule jusqu'au 14 avril. Toute la programmation sur le site collectif Bienvenue avec un E à bienvenue.fr. On peut prendre des billets en ligne.
On peut prendre des billets en ligne, payer sur place. Voilà, nous avons aussi des tirelires où chacun peut mettre son écho s'il le souhaite, compléter le prix de son billet. Ou etc. Enfin, voilà. Tout ce que nous pourrons collecter contribuera à sauver des vies en Méditerranée.
Très bien, merci Eric. Et on termine avec une chanson de Perrine Fifadji, donc comme tu le disais, qui est l'ambassadrice de cette édition de Bienvenue. Merci beaucoup à toi Eric.
Merci pour l'accueil, à bientôt.
Se di hwe ye we do li afu non fufu po non vipo apu wado de u di hwe ya we toe a shafa we isi sen ukuto ye ni wanu tozo bo levo ni wanu nozo po ye po wado de u tozo nozo mamanto we isi sen ukuto Mais de laisse un vaut tous à patabo laisse un temps ido pedo, et pour voir de où, tant ido pedo, mami wata wa ici, c'est nous comptons. Mette un way ici, c'est mi bia, ou est troué en ascendo, ou est I'm on me cano na feeling me day. I don't na can whippy up that bole. Ain't that bologo, no vi ain't logo. Ain't mama logo, no vi ain't logo. Ain't that bologo, no vi ain't logo. Hey mama logo, no vi logo, hey logo.
Perrine Fifadji avec ce titre Sissia Dagbé sur la clé d'onde pour terminer ce plat de résistance. Cet après-midi sur notre antenne, vous pourrez entendre à 14h Plateforme FM, à 15h Bordeaux Blues autour de Frank Strokes, leader du blues de Memphis. Et puis à 17h, comme chaque mercredi, l'émission Acétone et l'actu décapée par les chômeurs et les précaires. Mais tout de suite, à 13h sur la clé des ondes, c'est l'heure du guide.